enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Développez donc un esprit fort. Éphésiens 3:16 nous dit qu'il vous donne par son esprit d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Ce que la Bible appelle l'homme intérieur, c'est notre esprit. Que Dieu vous donne par son esprit d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Donc on va partager ce thème de développer un esprit fort, un esprit qui devient capable de se marier avec l'Esprit de Dieu pour enfanter les œuvres de Dieu, les projets de Dieu, pour être un canal, pour communiquer la vie miraculeuse à d'autres personnes et pour être un canal qui transmet Jésus dans ce monde. Dieu est esprit, nous dit l'Écriture, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Bien souvent, quand on pense à l'esprit, on dit « mais c'est abstrait, c'est un vide, c'est virtuel ». En réalité, l'esprit n'est pas virtuel, l'esprit n'est pas abstrait. Bien souvent, quand on a été dans notre éducation occidentale, on a une notion de l'esprit comme étant quelque chose d'un petit peu vide, vague, flou, nébuleux. En réalité, l'esprit est substance. Quand la Bible nous dit « Dieu est esprit », ça veut dire « Dieu n'est pas une matière physique, mais Dieu est substance vivante ». Cette substance, c'est un esprit, c'est ce qu'il est, mais il est substance. Ça veut dire que de la même façon qu'on parle du poids des pensées, du poids des mots, du poids des émotions, parfois des gens sont chargés émotionnellement, nous pouvons être chargés spirituellement. Dieu est un esprit de poids. D'ailleurs, le mot « poids » et le mot « gloire » sont identiques dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu est substance. Et quand nous cherchons à rencontrer Dieu qui est esprit, la substance de nos cœurs et la substance de qui est Dieu se rencontrent. Et 1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit ». Et ça, c'est le point le plus fort de la vie chrétienne, le point le plus fort de la vie spirituelle, cet attachement si puissant, si profond avec Dieu. Dieu souffla dans les narines de l'être humain un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. C'est-à-dire le rouar, l'Esprit de Dieu, qui va se manifester parmi nous cet après-midi, est venu dans le Neshamar, c'est-à-dire l'esprit humain, l'être humain ici. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, est venu dans l'esprit humain, le Neshamar, pour faire de lui un nefesh vivant, donc une âme vivante, un être vivant. L'Esprit de Dieu et l'Esprit humain se sont rencontrés pour produire la vie. C'est ce qui s'est passé avec le Saint-Esprit et Marie pour produire la vie de Jésus. Et c'est ce qui continue de se passer dans nos vies. La Bible nous dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle, c'est le même mot que l'Esprit. L'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'Esprit humain est le siège de la présence de Dieu pour l'homme qui est né de nouveau. Quand une personne est régénérée, ça se fait dans son esprit, c'est-à-dire la lumière s'allume, la lampe est éclairée. Sans quoi, on a une lampe, mais elle est éteinte. Chaque être humain a un esprit. Et chaque être humain a ce besoin d'ouvrir son cœur, d'ouvrir quelque chose, d'être un adorateur. Pendant très longtemps, j'étais sur les stades. Quand j'étais enfant, mon père m'a amené sur les stades de soccer, puisque c'est le sport national chez nous. Et je voyais mon père, quand j'allais avec lui à l'église, il adorait comme un religieux. C'est-à-dire, il devenait comme les statues de granit de l'église où on était. Et pendant une heure, il se figeait. Mais quand l'après-midi, on allait sur les stades, je le voyais être un adorateur, en esprit et en mensonge. Mais un adorateur. Quand je dis en mensonge, c'est pas qu'il était menteur, c'est qu'il n'adorait pas le vrai Dieu. Mais son esprit était impliqué dans ce moment-là. Si vous aviez vu son cœur ouvert, sa ferveur, tout ce qui était en lui était en train d'être porté. Et il y avait une substance vivante qui se dégageait de lui qui s'appelle un esprit éveillé, l'adoration. Alors, tant de gens sont en train d'adorer. Parfois, ils n'adorent pas le vrai Dieu, mais ils adorent. Et ces mêmes personnes, on les met dans l'église, c'est comme si la lampe est éteinte. Mais nous devenons une nouvelle créature née de Dieu et ça se passe par l'esprit. L'esprit humain est donc le siège de la présence de Dieu qui est en nous. Pourquoi je parle de développer un esprit fort? Parce que Jésus est notre modèle. Et Jésus, pour aller rapidement là-dessus, est né de l'esprit, Luc 1, 35. Mais quelques versets plus loin, nous voyons qu'il était rempli du Saint-Esprit, Luc 4, 1. Il y a une dimension de plus, il est né de l'esprit, mais il est rempli de l'esprit. Luc 4, 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, il y a une mesure supplémentaire. Il est né de l'esprit, rempli de l'esprit, revêtu de la puissance de l'esprit. Verset 18, toujours Luc 4, Jésus, oint du Saint-Esprit pour porter la bonne nouvelle, guérir, délivrer, oint du Saint-Esprit pour déborder sur les autres, tellement oint du Saint-Esprit que maintenant, il en est plus que rempli pour lui-même, il est plus que puissant lui-même, mais il commence à être libérateur pour les autres. Il s'est développé lui aussi dans l'Esprit. Et enfin, Hébreux 9, 14 nous dit que Jésus s'est offert par l'Esprit. Comment quelqu'un peut-il résister alors qu'il sait qu'il pourrait juste claquer du doigt et son père lui enverrait 12 légions d'anges? Comment est-ce qu'il a pu résister aux crachats, aux injures, aux insultes, aux coups et continuer à aller jusqu'à la croix? Hébreux 9 nous dit, c'est par l'Esprit qu'il était assisté pour se consacrer à ce point. Né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, revêtu de la puissance, oint du Saint-Esprit, pour déborder sur les autres, s'est consacré de façon ultime par l'Esprit. Si Jésus a dû développer au-dedans de lui une mesure de l'Esprit de plus en plus grande, à combien plus forte raison j'en ai besoin et peut-être tu en as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Alors l'Écriture nous dit ceci, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. J'ai une question. À qui s'adresse cette parole de l'apôtre Paul? Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. À qui s'adresse cette parole? À vous, madame. La Bible vous dit soyez un homme? Bon. On aurait peur que ça arrive, ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Hein? On aurait peur que ça arrive. En fait, effectivement, la Bible dit « soyez des hommes, réellement soyez virils ». Est-ce qu'ici, Paul serait en train de nous dire que Dieu n'aime pas la féminité? Pas du tout. Paul n'est pas en train de parler au niveau psychique des femmes ou des hommes, ni au niveau physique, et il faudrait rapidement préciser ces choses, de peur qu'un jour, Stéphanie Poirier voit arriver ce genre d'énergumène à ces réunions-là, des femme à barbe, comme on a vu parfois, c'est pas ce genre de choses du tout que Paul veut dire. Donc, on laisse partir ça. Il ne parle pas de ce genre de choses. Il parle quand il nous dit « soyez virils, soyez des hommes ». Il est en train de parler de nos esprits. Ayez des esprits virils. Ayez des esprits masculins, si je peux dire. Et je vais expliquer ce que je crois que Paul nous dit ici. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Alors, comment le faire? Comment faire cela? Comment faire pour être rempli de feu? Bien sûr qu'il ne s'agit pas de ce baptême de feu ici. C'est autre chose que nous attendons comme baptême de feu que ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce que nous attendons, nous, dans nos vies, comme un feu divin qui va arriver sur nous? Comment faire pour être rempli de l'esprit, pour avoir un esprit fort, non seulement rempli, mais continuellement, de continuer à développer notre esprit. Il y a quatre choses que je veux partager cet après-midi, et juste ensuite, nous allons terminer par un temps de ministère sur chacune de ces quatre pistes que j'aimerais vous donner. Et j'aurai d'autres pistes, mais peut-être ce sera pour une autre fois, mais on va rester sur quatre cet après-midi. La première de ces choses, il s'agit de s'exprimer devant Dieu, face à Dieu, chanter, adorer, danser, pleurer, mais répondre à la présence de Dieu. Jésus dit, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamenté. La passivité spirituelle est une caractéristique de l'Église en Occident. On est à l'Église souvent comme on est au cinéma, comme on est au stade de sport, en spectateur. Jésus attend de nous une participation active. Je voudrais vous dire une chose, Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Dieu n'est jamais impressionné par la qualité de notre spectacle, même si c'est excellent que nous le fassions. Mais Dieu est impressionné par la qualité de nos cœurs. Dieu cherche des adorateurs. Si Dieu avait juste besoin de musique, parce qu'il est un peu inquiet sur l'état du monde, il a besoin un peu de musicothérapie, on lui mettrait un CD. Seigneur, t'inquiète pas, ça va te calmer, tu sais, on sait, il s'en passe des choses depuis des millénaires, on comprend que tu sois fatigué de l'humanité, on va te mettre un peu de musique, ça va te rassurer. C'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de musique pour soigner ses nerfs. Il aime rencontrer des esprits qu'il adore. Et un des adorateurs, un des conducteurs de louanges en Europe, dont on chante souvent les chants, même ici, Matt Redman, il y a quelques années, dans son église locale, a demandé un jour, on va arrêter, pour nous les musiciens, de jouer la musique, parce qu'on voudrait savoir qu'est-ce que nous avons dans nos esprits au moment où nous voulons adorer Dieu. Il voulait savoir comment est-ce que les croyants adorent Dieu avec leurs entrailles, avec leurs tripes, passez-moi l'expression, avec leur cœur, avec tout ce qui est au-dedans d'eux. Parce que le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. » Et de cette façon-là, on a tellement besoin, nous, de répondre à la présence de Dieu. L'épître de Jacques nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Mais qu'il réponde ! Sinon, c'est qu'il est malade. Alors qu'il appelle les anciens de l'Église, ils lui feront l'onction d'huile, nous dit Jacques. » C'est quand même étonnant, mais il dit « Dans l'Église, quand tu viens, soit tu pries parce que tu souffres, soit tu chantes parce que tu es heureux, soit tu appelles les anciens parce que tu es malade. » Et je suis étonné que Jacques ne donne aucune autre alternative que celle-ci. Il n'y a pas de place pour une réponse molle et passive. Nous sommes baptisés de feu. Nous sommes baptisés d'un Dieu qui cherche des cœurs livrés. Et pourquoi est-ce que la louange et le fait de chanter devant Dieu développent notre esprit? Parce que souvent l'Écriture nous dit « Je vais vous revêtir de louange » au lieu d'un esprit abattu. C'est soit on a un esprit abattu, soit on a la louange qui développe au-dedans de nous un esprit fort. Et je ne parle pas d'une louange que nous écoutons. Nous sommes bénis dans notre temps et dans notre génération. Nous sommes si bénis à l'Église Nouvelle Vie, avec l'équipe de louanges que nous avons. Mais Dieu cherche quand même nos esprits. Dieu cherche quand même que nos esprits couvrent, soient la mesure de la qualité de louange musicale que nous avons dans cette église, parce que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et le fait de chanter à Dieu, de chanter, crée au-dedans de nous un esprit fort. La louange est souvent l'opposé de l'esprit d'abattement. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Il y a une puissance dans la louange. Si ce n'était pas le cas, expliquez-moi pourquoi les armées du monde chantent. Si ce n'était pas le cas, expliquez-moi pourquoi dans les stades de sport, quand les gens jouent à domicile, il y a souvent plus de victoires que quand ils jouent à l'extérieur, parce qu'ils sont portés par une espèce de force qui jaillit d'un chant commun de tous les supporters qui sont là. Dieu attend de nous un esprit fervent. Et tout à l'heure, nous allons terminer avec un chant et j'aimerais que nous puissions décider. Aujourd'hui, quand je viendrai dans cette assemblée, je veux que ma voix soit le reflet d'un cœur fervent et ardent pour mon Dieu. Bien souvent, quand on est au milieu des jeunes gens ou des croyants, ça arrive. Je ne sais pas, vous avez déjà assisté à une réunion d'ados à l'époque, à l'âge de 12-13 ans, au moment où ils commencent à plus vouloir chanter comme des enfants, mais ils n'ont pas encore basculé dans la conversion. Et alors, quand je les regardais, en tout cas, c'était le cas dans notre église à Montpellier, quand ils venaient au culte, des fois, ils chantaient avec nous, puis ils chantaient les dernières syllabes. Vous les regardez, puis ils sont là. « Ya », on leur dit « Alléluia ».« Nel », ça voulait dire « Je t'aime, ô Éternel ». Ils chantent juste la fin, vous savez, on a l'impression que ça va les fatiguer de dire le mot entier, et la phrase « N'en parlons pas », c'est quand ils seront grands. Mais je crois que réellement, il y a quelque chose dedans de nous qui ne va pas jusque-là, mais qui a besoin d'exprimer à Dieu une ferveur. Et je voudrais vous dire une chose. Je crois qu'il y a un peuple autour de nous qui attend, parce que tout le monde a un esprit, chaque être humain a un esprit. Il y a un peuple autour de nous qui attend d'adorer avec ferveur. Il faut juste qu'on leur offre le bon son, le bon ton. Et je voudrais qu'on écoute un DVD, si c'est possible, qu'on mette cela maintenant, et qu'on puisse voir. Ce n'est pas cette musique que peut-être vous aimez, vous n'aimez pas la musique, c'est pas sur la musique dont je parle ici, c'est sur la ferveur d'esprit. Sur la ferveur d'esprit dans cet extrait musical. Si on peut aller. J'ai attendu patiemment le Seigneur et il a tourné sa face vers mon cri. Il a entendu mon cri. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche. C'est le psaume 40. Le psaume 40 qui dit « Jusqu'à quand ? » Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand chanterons-nous ce chant ? J'aimerais qu'on voit simplement un peuple autour de nous qui attend dans la ferveur, qui attend d'exprimer cette ferveur de son esprit. Et si nous développons nos esprits, nous serons capables d'entraîner une foule tellement plus grande qui attend de célébrer, pourquoi pas, dans un grand stade à Montréal, dans la patinoire, une grande foule de gens qui attendent le moment où ils vont pouvoir célébrer et ils cherchent une mesure de ferveur que nous pouvons constater ici dans ce moment-là. Que puis-je rendre au Seigneur pour ces bénédictions qu'il a déversées sur moi? Comment rendrai-je au Seigneur pour les bénédictions qu'il a déversées sur moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'accomplirai mes vœux à notre Père. J'accomplirai la promesse que je t'ai faite. Entends mon cœur. Voilà le psaume 116 chanté par une génération qui attend, un peuple prêt à l'inviter à cette mesure de ferveur. Il y a des milliers d'adorateurs autour de nous. Il y a des millions d'adorateurs dans nos nations francophones et qui attendent cette mesure-là. Cette mesure-là, Dan, pour toi en France, cette mesure-là pour nos nations francophones. Il y a des millions de jeunes gens qui attendent cette mesure de ferveur. Qui attendent ce moment, on va chanter ces chants d'espérance. Where the streets have no name. Parler d'un lieu où les rues n'ont plus de nom. Béni soit Dieu. On va arrêter là parce que sinon moi je rentre dans l'écran après. Mais j'aime cette ferveur, je peux vous le dire. Et tout à l'heure, c'est pas YouTube, c'est Dan Too qu'on va avoir. Mais ça va avec toute son équipe. Et je peux vous dire que ce que je voudrais cet après-midi, c'est que nous puissions dire au Seigneur, comment rendrai-je au Seigneur pour l'action de grâce pour ses bontés envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances. Oh, et ma coupe déborde de joie. Et si jamais t'allais un tout petit peu plus loin cet après-midi, dans l'adoration, dans la ferveur, dans quelque chose qui explose de toi, si t'en donnais plus pour Jésus que pour les Canadiens cet après-midi? Et si Jésus pouvait en recevoir tellement plus, c'est comme cela que nous développerons un esprit fort, béni soit Dieu, un esprit fort. Il y a une puissance dans le chant fervent. Quel moyen Paul nous donne-t-il pour être en train de se remplir de l'esprit? Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Exprimez la louange de tout ton cœur, fortifie ton esprit. C'est le premier moyen pour avoir un esprit fort. Le deuxième moyen maintenant, obéir à la voix de l'esprit. Parce que la désobéissance nous prive de force. Une façon biblique de parler d'un état de désobéissance, c'est de dire « sans force ». Romains 5, 6, quand nous étions sans force, quand nous étions dans la désobéissance, dans le péché, nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Rien n'est pire pour perdre la vitalité spirituelle que de vivre à contre-courant du Saint-Esprit. Il y a un texte de l'Ecclésiastique 4, 26, « N'aie pas honte de confesser tes péchés, ne t'oppose pas au courant du fleuve. » Je veux tout de suite vous rassurer, c'est un texte qui n'est pas dans notre canon de l'Écriture. L'Ecclésiastique est un livre apocryphe de l'Ancien Testament, donc il n'a pas la même valeur que le reste de textes de l'Écriture. Mais il y a de la sagesse dans ce texte que Salomon aurait écrit ici. « Ne t'oppose pas au courant du fleuve. N'aie pas honte de confesser tes péchés. » Parce que l'obéissance est un acte libérateur. La Bible nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et Étienne reprochait à certains « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ». L'obéissance est un acte libérateur. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Samuel « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix ?» Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse, car la désobéissance est coupable comme la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'obéissance libère ton esprit dans une nouvelle énergie. Parce que le Saint-Esprit est comme un torrent, un fleuve avec énormément d'énergie. Et tu peux passer ta vie à mettre toute ta force, toute ton énergie à essayer de remonter le fleuve. Mais réellement, ne t'oppose pas au courant du fleuve, parce que tu vas perdre peu à peu de la force et de la vitalité. Mais quand tu te laisses aller dans le fleuve et que toi-même, tu nages dedans, alors tu trouves une nouvelle force. C'est pourquoi, tourne-toi cet après-midi. Je voudrais te dire une chose, ne marchande pas avec Dieu. Cet après-midi, mon premier appel sera de chanter avec ferveur, mais mon deuxième appel, pour tous ceux qui disent « j'aimerais développer un esprit fort », il y en a plusieurs parmi nous à qui le Saint-Esprit a déjà parlé plusieurs fois de faire une certaine chose. Et nous, on a dit « oui ». C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un oui ou un non, c'est un « oui ». Il y a beaucoup de « oui, Seigneur » dans les églises, « oui ». Eh bien, moi, j'aimerais que cet après-midi, notre « oui » soit clair devant Dieu. Et ne marchande pas avec Dieu. Vous savez quoi ? Parfois, certains, le Seigneur dit, tu dois jeûner 3 jours. On dit, Seigneur, écoute, je te propose un deal. Je donne le double de dîme ce mois-ci, mais s'il te plaît, je jeûne pas 3 jours. Parfois, le Seigneur a dit à certains, tu dois faire une offrande, et tu sais le montant, et il y en a ici. Mais toi, tu tergiverses. Seigneur, je te promets, j'évangélise tous mes voisins, mais ne me demande pas une telle offrande. Ne marchande pas avec ton Dieu. Parce que parfois, le Seigneur t'a demandé d'aller tisser relation avec ton voisin. Et toi, tu dis, Seigneur, me demande pas ça. Si tu veux, je jeûne un peu plus pour lui. Non, mais il t'a pas demandé ça. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Quand tu obéis, l'obéissance libère ton esprit. Parce que quelque chose de dedans toi qui est retenu peut être libéré, peut se développer. Et cet après-midi, je nous appelle à une obéissance pure, simple devant Dieu. Si le Saint-Esprit t'a déjà parlé d'une offrande, c'est le moment de venir te mettre à genoux tout à l'heure. Si tu as déjà parlé de témoigner à quelqu'un, tu tergiverses. Si tu as parlé d'un temps de jeûne et prière, simplement obéis. Tu vas dire, l'obéissance, ça coûte. Ça coûte pour tout le monde. Je me souviens, en 1982, ça remonte maintenant, j'étais tout nouveau pasteur, et en face de chez moi, je vivais sur une impasse comme ça, et il y a un voisin qui s'est tiré une balle avec son fusil. Et j'ai entendu ça et je savais pas trop quoi faire. Je suis allé le voir, je suis arrivé, il était dans une mare de sang. Et il était apparemment, il bougeait plus, je me demandais s'il était mort. Et j'ai simplement prié pour lui, il y avait personne qui était là. Je me suis dit, personne ne me fera des reproches théologiques ou quoi que ce soit. Au nom de Jésus, mort, va-t'en, j'appelle la vie à revenir sur lui. Et puis je suis resté prié un moment et puis comme après la police, tout le monde arrivait, je voulais pas qu'il croie que c'était moi qui... donc. Je suis retourné chez moi. Et puis, quand même, ça m'a perturbé. J'ai prié pour cet homme-là. Quelques temps plus tard, il s'en est sorti. Puis il était chez lui. Et moi, je terminais 3 jours de jeûne. Et avant que j'arrête, là, il y a une parole qui vient dans mon cœur. Cette parole, tu auras le droit d'arrêter ton jeûne dès que tu auras été dire à ton voisin que c'est moi qui l'ai sorti de la mort. Tu es allé prier pour lui et raconte-lui ce que tu as fait. Oh là là là. Seigneur, je suis prêt à faire 1 jour de plus, 2 jours de plus. Je suis prêt à... Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Mais vous savez, Dieu a raison. Et alors, au bout d'un moment, j'ai décidé, bon, je vais y aller. Je suis arrivé chez lui, bonjour monsieur. Il avait le visage tout déformé. Vous savez, il s'était tiré vraiment avec une carabine là. Puis je lui ai dit, je viens vous voir et je voudrais vous dire le jour où ça vous est arrivé. Je suis venu vous voir. Et j'ai prié pour vous, et je viens juste vous dire que c'est Dieu qui vous a rendu la vie et que c'est à lui que vous devez rendre gloire. Je voulais pas qu'il imagine je profitais de sa faiblesse pour faire du prosélytisme, etc. Donc, je vais simplement lui dire, et c'est Dieu, c'est à Dieu que vous devez rendre gloire. » Il me dit, « Mais je le sais, monsieur. Je vous ai entendu. Et j'ai senti cette vie arriver sur moi. Et quand j'étais dans l'ambulance, j'ai entendu les ambulanciers qui disaient, « Il va crever. C'est fini pour lui. Il n'arrivera même pas à l'hôpital, il sera mort. » Mais moi, je savais, la vie était revenue sur moi. Et moi, je le regardais. Il aurait pu me le dire avant, j'aurais eu beaucoup moins de lutte, mais j'avais une telle joie intérieure. Et vous savez quoi? Ce monsieur-là, c'était facile à ce moment-là de le conduire à Jésus. Il est venu au Seigneur. Lui, sa famille, ils sont venus dans l'église quelque temps. Il est auprès du Seigneur aujourd'hui, mais il est auprès du Seigneur. Il n'est pas dans une éternité sans Dieu. Vous savez dans quel état j'étais quand je suis sorti de chez eux? Mes pieds ne touchaient pas le sol. J'avais une force à l'intérieur, j'aurais mangé un lion. J'étais dans une telle joie que j'aurais impressionné Goliath ce moment-là, tellement porté par la puissance du Saint-Esprit. L'obéissance te libère dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voulais t'encourager, simplement dans ce moment, deuxième pas qui va te développer dans un esprit fort, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Je vais nous appeler tout à l'heure à ce moment d'obéissance. Troisième, et on finira avec le quatrième. Troisième, c'est des pensées d'espérance. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée qui... Au moment où nous venons prier, la pensée qui s'en va, au moment où nous venons en train de lire la Bible, la pensée qui s'en va, combien parmi vous, vous avez mis de telles chaussures de sport à votre cerveau, à tel point qu'ils courent tellement bien dans tous vos moments de prière, n'est-ce pas? Nous faisons toute pensée captive de l'obéissance de Christ. Nous amenons nos pensées, des pensées d'espérance. Combien cela nous aide à être dans la force en Dieu? Moi, je voudrais nous encourager à avoir le bon filtre et pas le mauvais filtre. Combien parmi vous vont se reconnaître dans ce que je vais dire ici? Dans une journée, vous pouvez entendre 3 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Si vous avez un mauvais filtre, le soir, vous ne pensez qu'à la mauvaise nouvelle. Vous ne pensez qu'à la mauvaise nouvelle. C'est celle-ci. Vous avez reçu 5 compliments dans la semaine et une critique. Il y en a qui achètent le filtre au même endroit que moi. Mais il faut qu'on change de fournisseur. Parce qu'on doit absolument faire un choix des pensées que nous allons entretenir. Nous devons entretenir des pensées de confiance en Dieu. Ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme des aigles. C'est pour ça, quelle pensée choisis-tu d'entretenir? Ce que je pense détermine ce que je ressens. Ce que je ressens détermine ce que je vais faire. Quelle pensée choisis-tu d'entretenir? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense aux critiques, quand je pense aux mauvaises nouvelles, quand je pense de façon inquiète, alors mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Je veux apprendre à anticiper dans mes pensées le secours de Dieu. Je veux apprendre, au lieu d'utiliser ma foi dans l'intervention des problèmes, je veux utiliser ma foi dans l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que c'est un souci? Un souci, c'est une foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Un souci est une foi que le diable va intervenir et nous faire un problème. Le souci est une foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, une ferme assurance des choses que j'espère. Mais les pensées d'espérance, quand elles sont négatives, nous amènent à l'abattement. C'est pourquoi une façon de développer notre esprit et que tu commences à regarder ta vie financière, ton emploi, ton travail, ton entreprise, tes enfants, ta famille, même quand les choses vont de travers, de continuer à dire, mais la Bible dit, tous mes enfants seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. La Bible dit que je serai sauvé, moi et toute ma maison. Et on continue à faire ce genre de choses-là, parce que simplement, nous voulons apprendre à entretenir des pensées d'espérance. Je ne sais pas comment est Luc Poirier à ce sujet, parce que je n'ai jamais parlé de ça. Mais nous avons organisé des grandes conférences. En 1993, la première, Grande conférence de toute la francophonie, 34 nations qui venaient à Bordeaux avec 300 Africains dont on payait pour la plupart des billets d'avion. Et nous, on venait d'avoir notre maison depuis 4 ans et je disais à mon épouse, tu sais Isabelle, c'est pas grave. Si on perd la maison, ben on redémarrera notre vie à zéro. Puis si on vend la voiture, ben on redémarrera à zéro. Puis si on doit vendre le bâtiment de l'église, ben on redémarrera à zéro. Puis elle commençait à me regarder, elle dit, mais c'est quoi là ce que tu anticipes? Puis je disais, mais vous savez, au-dedans de moi, les pensées catastrophes commençaient à anticiper l'arrivée de l'échec. Et quand je pense à l'arrivée de l'échec, à une issue dans l'échec, je suis dans une mauvaise situation. Et c'est pas comme ça que je vais fortifier mon esprit, mais je veux apprendre à amener toute pensée captive de l'obéissance de Christ et à faire un choix. Et nous avons un choix à faire dans nos pensées qui vont nous amener à fortifier nos esprits. Et nous arrivons à notre dernier point maintenant, de confesser la parole de la foi. Les paroles ont une puissance pour créer une atmosphère de vie ou de mort. Proverbe 18:21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles ont une puissance pour créer. Au commencement, Dieu dit et le Saint-Esprit agit. Il y avait des ténèbres au-dessus, des eaux, le Saint-Esprit se mouvait. Dieu dit et le Saint-Esprit agit. Une parole est toujours une base d'action sur laquelle un esprit va agir. Un esprit a besoin d'une parole pour agir. Dieu dit et le Saint-Esprit agit. Quand tu donnes une parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans ta vie. Quand je donne une parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans ma vie. Quand je commence à donner des paroles qui sont des paroles de murmures, de plaintes, de défaites, d'inquiétudes, elles font éclater la faiblesse. Vous commencez à parler des choses négatives et vous sentez dans l'atmosphère, c'est faible. Et vous sentez, vous venez de créer une faiblesse au-dedans de votre propre esprit. Pourquoi ? Parce qu'un esprit agit toujours sur une parole. Et c'est pourquoi nous devons apprendre continuellement à confesser, à dire des paroles de foi tout au long de notre vie. C'est un choix que nous pouvons établir. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Il y a même une guérison qui vient dans les paroles. Il envoya sa parole et les guérit. Je vois un frère qui est ici, a été guéri le premier mercredi. Sans qu'on même on prie pour lui, on impose les mains. Il a juste écouté la parole et il y a une puissance. Quand la parole de Dieu est donnée, l'Esprit de Dieu agit dessus. C'est pourquoi chaque fois que nous parlons la parole sur nos corps, sur notre famille, sur nos finances, sur l'avenir de l'Église, sur toutes sortes de choses autour de nous, nous voyons que l'Esprit de Dieu agit. Nos paroles peuvent créer une puissance ou créer une faiblesse au-dedans de nous et c'est tellement précieux pour développer notre propre esprit. La Bible nous dit que nous pouvons confesser. Hébreux 4:14 nous dit « Demeurez ferme dans la confession de votre foi ». Il y a un exercice à faire de rester ferme dans la foi que nous confessons. Alors au début, quand je devais confesser des paroles, je prenais des textes que vous allez avoir ici et je confessais cela à voix haute. Au début, ça me faisait un peu étrange parce que j'avais l'impression que je disais des choses que je ne ressentais pas. Mais c'est ceci. Il y a une guerre dans le monde, visible ou invisible. Je ne parle pas des démons ici. Il y a une bataille continuelle entre la vérité et la réalité. Il y a une guerre continuelle entre la vérité et la réalité. Quand les 12 espions sont allés voir les géants, 10 d'entre eux sont revenus et ils disaient, sont allés voir le pays promis. Ils disaient, il y a des géants et nous ne pourrons pas prendre le pays. 2 autres disaient, oui, il y a des géants. Mais Dieu est plus grand que les géants. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et nous pourrons prendre le pays. 10 parlaient de la réalité, 2 parlaient de la vérité. Il y a une bagarre dans nos vies continuellement. Et soit nous nous appelons, ah mais moi je suis réaliste, je parle de la réalité. Mais il y a guerre entre réalité et vérité. Et la vérité est souvent invisible. La vérité c'est ce que la parole de Dieu dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que je possède. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. La réalité, c'est ce que je vois. et je ne suis pas appelé à nier la réalité, mais je suis appelé à faire basculer ma vie dans la vérité et ne pas la laisser dans la réalité visible. Et ça, ça s'appelle la foi. La foi, c'est de pouvoir amener la vérité dans notre réalité, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, comme elle est au ciel. C'est dans le ciel que se trouve la réalité divine qui est la vérité. Dans le ciel, il n'y a pas de malade. Dans le ciel, il n'y a pas de démon. Dans le ciel, il n'y a pas de misère et de pénurie et de pauvreté. C'est pourquoi quand nous appelons les choses qui ne sont pas à venir dans nos vies comme si elles étaient, elles se produisent. Et le résultat, ce n'est pas une attente passive. Le résultat est produit par la confession de notre bouche. Si quelqu'un croit dans son cœur et confesse de sa bouche, Jésus l'a dit, si vous parlez même à cette montagne, alors je vous dis, bien sûr tout le monde comprend, il ne s'agit pas d'aller parler au Mont Blanc ou à n'importe quelle autre montagne, mais si quelqu'un parle face à une montagne de réalité, mais il parle la vérité avec foi, il verra toujours la vérité triompher de la réalité visible, et ça s'appelle un miracle, et c'est comme cela que le royaume de Dieu vient. C'est pourquoi, cet après-midi, ma question, vous accordez votre parole avec qui ? Avec ceux qui parlent la réalité et qui finissent par être cyniques dans un monde déchu ? Ou alors, vous arrivez à dire simplement, je vais confesser ce que Dieu dit sur toutes ces choses réelles. La foi vient de ce que j'entends. Et c'est pourquoi je vais vous inviter, alors que je vais appeler Pasteur Dan à monter sur l'estrade, Dan Tou, maintenant, sur l'estrade ici, pour que on puisse entrer dans ce moment de ministère, peut-être les musiciens avec, pour qu'on puisse rentrer dans ce moment de ministère, je voudrais simplement nous inviter aujourd'hui à prendre ces décisions, pour nous aussi, à confesser des paroles de foi. Accordons ce que nous pensons avec ce que Dieu dit, ce que Dieu dit de lui-même, ce que Dieu dit de nous-mêmes, ce que Dieu dit de l'avenir, ce que Dieu dit de l'argent, ce que Dieu dit des problèmes, ce qu'il dit des possibilités, ce que Dieu dit de notre santé, ce qu'il dit de notre provision, ce qu'il dit de notre destinée, de notre position. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je vaux ce que Dieu dit que je vaux. Je possède ce que Dieu dit que j'ai. Je fais ce que Dieu dit que je peux faire. Et ce genre de choses-là, je le déclare souvent. Alors, je vais vous encourager avec moi à faire une première déclaration de foi à voix haute. Et puis ensuite, on va commencer à entrer dans ce moment d'appel. Est-ce que vous êtes prêts à le faire avec moi ? Peut-être quelqu'un ne se sent pas joyeux cet après-midi, mais on ne va pas parler de la réalité. On va appeler la vérité à entrer dans ta réalité. Et tu verras que la tristesse se changera en joie, parce que quand tu parles la parole de Dieu, elle commence à devenir active dans ta vie, à consommer sans modération chaque jour de votre vie. De parler la vérité sur votre réalité, à consommer avec excès, s'il le faut, chaque jour de votre vie. Je rejette l'esprit d'abattement. Vous êtes avec moi ? Et je me revêts du manteau de la louange. Je voudrais vous entendre confesser à voix haute. On recommence. Je rejette l'esprit d'abattement. Et je me revêts du manteau de la louange, afin de donner gloire à Dieu. En tout temps, je bénirai le Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ma force est dans la joie de Dieu. Jésus a pris sur lui mes peines, mes chagrins. C'est aujourd'hui le jour que Dieu a fait. Je vais le vivre dans la joie et l'allégresse. Je me réjouis toujours dans le Seigneur. Je fais tout sans me plaindre, sans murmurer. Même dans l'épreuve, j'offrirai au Seigneur un sacrifice joyeux. Je chanterai les louanges de Dieu. Sans cesse, le Seigneur est devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon âme tressaille d'allégresse. En ta présence se trouve la plénitude de la joie. À ta droite, il y a des délices éternels. Je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Nous allons répondre à Dieu maintenant. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va se lever ensemble. Et on va chanter ensemble, et je voudrais qu'on chante de tout notre cœur, avec passion. Écoutez bien ceci, l'adoration masculine, l'adoration virile dont on a parlé, c'est une adoration qui n'est pas là simplement pour accueillir la présence de Dieu, mais pour offrir à la présence de Dieu. L'adoration féminine, c'est « Seigneur, je m'ouvre à toi et je te reçois », ce que Marie a fait. Mais il y a une adoration virile, qui est celle dans laquelle tu prends de ton esprit et tu déposes quelque chose sur Dieu. C'est comme cela qu'on dit « Béni soit Dieu ». Tellement souvent dans les moments de louange et adoration, on s'en va et on dit « une bonne louange ». Et parfois, j'ai le sentiment que le Seigneur dit, mais en fait, est-ce que de temps en temps, elle pourrait être pour moi, la louange? Pas simplement qu'elle soit bonne pour vous. Vous avez été bénis dans la louange, mais combien sont prêts à me donner quelque chose? Et je vous propose cet après-midi, soyez sûrs dans ce champ, à un moment donné, même si ça dure 3 secondes, 5 secondes, mais que vous avez pris quelque chose qui est au plus profond de vos entrailles, le nectar de votre amour, et vous l'avez offert, déposé au Seigneur. Soyez viril dans votre adoration. On va chanter ensemble et on va continuer après cela.
Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer?
Est-ce qu'on pouvait mettre les paroles?
Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour?
Vous l'aimez, le glorifier.
Vous l'aimez,
oh,
glorifier.
Reçois favorablement les paroles de ma bouche.
Reçois favorablement. Qui recherchera sa main puissante?
Qui demandera force et sagesse?
Qui demandera force et sagesse?
Oh, pour le servir,
pour le servir,
lui obéir. Qui se lèvera?
Qui se lèvera pour le Seigneur?
Qui se lèvera pour le bénir, l'adorer? Aujourd'hui, que jusqu'à ce jour, vous avez comme perdu un esprit d'adoration, que vous êtes là dans l'assemblée, vous chantez, mais vous n'offrez pas votre esprit au Seigneur de façon virile, vous n'êtes pas semé de votre amour dans le cœur de Dieu, que Dieu ne reçoit pas la louange qui lui est due dans le culte que vous lui rendez régulièrement. Vous avez comme perdu un feu d'amour et vous voulez dire, Seigneur, Saint-Esprit, inonde-moi, car je veux retrouver mon amour pour Dieu. Alors c'est le moment de quitter vos rangs. Venez vous mettre à genoux ici devant et chantez au Seigneur comme vous n'avez jamais chanté. Reçois favorablement Jésus. Oh, reçois de mon amour.
De ma vie,
reçois favorablement. Reçois, Seigneur. Reçois de nos cœurs, Jésus. Reçois quelque chose. Dépose quelque chose de ton amour. Oh, je viens t'en supplier. Ton Dieu attend tes hommages. Ton Dieu attend ton amour à toi. Il n'est pas indifférent au son de ta voix. Il n'est pas indifférent au son de ta voix, aux mots qui sortent de ta bouche. Encore que l'assemblée dise, reçois favorablement. Reçois, c'est pour toi. Reçois favorablement. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois. Seigneur, Saint-Esprit, viens consacrer ces hommes, ces femmes comme des adorateurs pour toi, dans le nom de Jésus. Chantez si vous êtes là devant, reçois favorablement les paroles de ma bouche.
Sentiments.
Fais-le avec ferveur, fais-le de tout ton cœur. Pense seulement à Jésus. Vois ton Sauveur qui a donné sa vie pour toi. Il est là, il te regarde. Et dis-lui ton merci. Redis-lui encore, reçois favorablement. Reçois, Seigneur, c'est pour toi. Oh, reçois, Seigneur, reçois ces louanges. Fête pour toi, célébration pour toi. Adoration pour toi, Seigneur. Reçois de l'Église Nouvelle Vie une fête que tu mérites de recevoir. Reçois de ces hommes, de ces femmes. Viens remplir.
Viens remplir le vase que je suis.
Ensemble nos mains vers Dieu et donnons-lui, même par nos mains levées, une offrande d'amour, une pensée tournée vers lui. 5 secondes où tout ce qui est au-dedans de nous lui dit je t'aime avec mon cœur, je t'aime avec mes entrailles, je t'aime avec ma pensée, je t'aime avec ma force, je t'aime Seigneur. Merci, personne n'a fait ce que tu as fait pour moi. Reçois mon adoration. Trouve un peuple en fête, un peuple en feu dans ce lieu. Fais de tes serviteurs des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu. Que le feu de la passion soit renouvelé dans le nom de Jésus. Alléluia, je crois que Dieu est en train de recevoir. Je crois qu'il y a un fil de relation qui est en train de se créer, de nouveau avec plusieurs parmi nous ici. Je crois que plusieurs veulent recommencer une histoire d'amour avec Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit va honorer cela. Mais il y a une offrande que notre Dieu attend cet après-midi. Combien parmi nous doivent simplement accepter une offrande d'obéissance? Si Dieu t'a demandé une offrande financière, s'il t'a demandé une offrande de jeûne et prière, une offrande de témoigner à quelqu'un, une offrande de te joindre aux bénévoles, une offrande d'aller servir parmi les enfants à Action Nouvelle Vie, Mission Bon Accueil, une offrande de bénévolat pour toi. Simplement, il y a une invitation du Seigneur pour toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix de nouveau, n'endurcis pas ton cœur. Le Saint-Esprit te parle. Et alors que tu prends cette décision d'obéir, de faire cette offrande financière, de faire cette offrande de bénévolat, de faire ce jeûne que Dieu t'a demandé, d'aller te réconcilier avec quelqu'un. Si Dieu t'a demandé d'aller te réconcilier avec tes parents, ton patron, ne lui promets pas autre chose. Fais simplement ce que Dieu t'a déjà demandé. Et maintenant, on va voir simplement des offrandes que le Seigneur agrée. Voilà un culte que le Seigneur agrée, l'obéissance. Vous tous à qui le Saint-Esprit a déjà parlé, cet après-midi, vous voulez cesser de marcher contre le fleuve. Et vous dites, oui Seigneur, Oui, Seigneur, je vais le faire, je vais obéir. Levez votre main là où vous êtes. Oui, oh là là, je vois toutes ces mains, toutes ces offrandes d'obéissance. Il y a une chose précise que Dieu vous a déjà demandé. C'est une chose précise. Il vous a déjà demandé de faire quelque chose. Et vous savez, c'est pas compliqué la vie dans l'esprit. C'est en marche à contre-courant ou avec le courant. C'est tellement mieux avec le courant. Seigneur, je t'apporte simplement ces dizaines ou centaines de gens qui lèvent leurs mains maintenant. Seigneur, tu as dit, offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et agréable. Seigneur, reçois ce culte maintenant de ces vies qui décident de t'obéir. Reçois ces offrandes financières, ces offrandes de jeûne, ces offrandes de bénévolat, ces obéissances de réconciliation, ces actes d'obéissance pour aller témoigner à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous qui êtes en train d'agir ici pour cet acte d'obéissance, si vous savez que vous avez besoin d'aide, bien gardez votre main levée en ce moment et peut-être un des responsables, un des pasteurs d'église va juste prier avec vous. Entendant cet acte d'obéissance, peut-être vous avez besoin d'être fortifié, d'un courage pour aller faire cet acte d'obéissance. Si vous avez besoin d'assistance, juste d'une aide, une prière pour vous aider dans cet acte d'obéissance, mais c'est juste une aide. Vous avez déjà pris votre décision. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Mais simplement, vous avez besoin d'aide, alors gardez votre main levée. Quelqu'un va venir prier pour vous. Pour vous assister dans cet acte d'obéissance. Vous pouvez peut-être même dire ce qu'est cet acte d'obéissance. Oh Dieu, merci. Saint-Esprit. Vous savez, ça semble rien, mais c'est ça ce qui lève un mauvais poids sur une vie. Et c'est ça ce qui met une mesure supplémentaire du Saint-Esprit dans nos vies et dans une église. Cette obéissance à notre conscience. Saint-Esprit, agis. Agis. Agis, Saint-Esprit. Nous allons, pendant qu'on finit de prier, pour ceux et celles qui ont besoin d'aide ici, je voudrais appeler tous ceux et celles qui ont un mauvais filtre dans leur vie. C'est-à-dire, je pense à ma misère. Je pense aux choses négatives. Je ne sais pas si on connaît Émile Zola au Québec, oui. Mais ce n'est pas lui qui a écrit l'Évangile. L'Évangile, selon Renaud, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur existentialiste français très négatif. Ce n'est pas lui qui a écrit l'Évangile. Mais il y a tellement de croyants dans nos pays occidentaux, on croirait qu'ils ont lu l'Évangile selon Zola, selon Renaud, l'Évangile négatif. L'amour de la mélancolie, l'amour de la tristesse, le mariage avec une pensée négative, défaitiste. Et quand je pense de cette façon, quand je retiens ce qui est négatif dans mes pensées, quand j'entrevois la solution qui va être négative à la fin, l'issue de cette situation va être négative. Lorsque j'ai foi dans une issue négative, mes pensées me conduisent à la faiblesse spirituelle. Mais voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser. C'est un acte de volonté. Je veux faire la guerre à ces pensées de désespérance. Ces pensées négatives, je vais faire un choix et je vais retenir les compliments plutôt que les critiques. Je vais m'entretenir des bonnes nouvelles plutôt que des mauvaises nouvelles. Je fais un choix de développer au-dedans de moi des pensées d'espérance parce que quand mon âme se souvient des choses négatives et de la misère, elle est abattue, mon esprit est abattu. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, ce qui va me donner de la plénitude, de la vie, de la force. Je vais penser aux bontés du Seigneur. Je vais penser que toutes choses finissent par concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu sait nous racheter de n'importe quelle situation. que s'il a pu ressusciter Jésus d'entre les morts, aucune situation n'est suffisamment désespérée pour que Dieu ne puisse pas m'en sortir. Alléluia! Aucune situation n'est suffisamment désespérée pour que Dieu ne puisse pas m'en sortir. Voici ce que je choisis de développer comme mentalité et comme pensée. Et si vous savez que vous en avez besoin, je vais vous rappeler Golgotha, lieu du crâne. Et c'est souvent là que ça se passe. Bien cet après-midi, si sur votre lieu du crâne, vous voulez dire je veux faire un choix de développer mon esprit et de divorcer avec une mentalité qui parle des choses négatives, bien répondez-vous aussi à l'appel de Dieu. Sortez de vos rangs et venez ici devant. Répondez juste à l'appel de Dieu. Approchons ici ensemble et à genoux devant Dieu, prosternez devant Dieu. Inclinez même votre corps entier, votre tête, face contre terre, disant « Seigneur Dieu, je me prosterne devant toi et je viens te dire, fais-moi grâce parce que moi je fais un choix. Le choix de la confiance en Dieu, le choix d'espérer une issue favorable, le choix de dire c'est Dieu qui a le dernier mot, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui s'élèvera en dernier sur la terre. Il aura toujours le dernier mot dans n'importe quelle situation que je traverse. Et voilà le type de pensée que je vais développer. Si c'est ton choix aujourd'hui, alors approche-toi ici aussi devant. Prosterne-toi devant ton Dieu et divorce avec cette mentalité négative des pensées d'espérance. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, viens animer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir mes yeux.
Que des flammes de feu de Dieu descendent sur les pensées, descendent sur les lieux des pensées, le siège de la pensée humaine, descend un feu de Dieu qui consume toute pensée négative et nous amenons pensées captives à l'obéissance de Christ, des pensées d'espérance, des pensées de vie, de victoire dans le nom de Jésus. En ce moment, si vous en avez besoin pour vos pensées, juste posez votre main sur votre tête. Ce n'est pas un acte magique, c'est un acte de foi où nous attendons que Dieu lui-même vienne mettre son feu sur les pensées. Un feu divin pour tourner nos pensées, renouveler nos pensées. Nous faisons le choix, mais nous avons besoin de l'intervention, de l'assistance du Saint-Esprit pour honorer ce choix. continuer à penser selon Dieu. Ô Dieu vivant, viens et mets ton feu maintenant. Mets ton feu, mets ton feu, mets ton feu, ton feu, 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 feu de Dieu. Feu de Dieu, un miracle sur les pensées. Feu de Dieu, feu de Dieu. Au nom de Jésus, feu de Dieu sur toutes les déformations de la façon dont nous avons été éduqués. Au nom de Jésus, un feu de Dieu. Merci pour la transformation, le renouvellement de l'intelligence dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.